Il est 9h10 et c'est l'heure de laisser la parole à Louis Dauphren et ses invités pour le débat du jour. Bonjour Louis.
Bonjour Pierre-Hugues, on vous retrouve demain à partir de 16h. 16h, 6h30.
16h, ben non, 6h30, bon pied, bon oeil.
On va dormir, hein,
à demain matin et bonne émission Louis.
À demain.
RCF et Radio Notre-Dame, le débat du jour.
Auquel vous pouvez participer grâce à deux adresses qui sont à votre disposition. N'hésitez pas à en faire usage et assez tôt d'ailleurs dans l'émission pour qu'on ait le temps de vous répondre. Ce sera Constantin de Vergennes et Étienne Pépin aujourd'hui qui officieront dans ce domaine. Donc je vous donne les deux adresses, direct@rcf.fr et direct@radionotredame.com. C'est très simple, vous écrivez votre mot. De préférence des questions assez courtes, comme ça, voilà. Ne faites pas des romans fleuves. Comme ça, on peut répondre assez facilement aux interrogations qui sont les vôtres. On parlera ce matin de l'allocution d'Emmanuel Macron et de la perspective de guerre ou de préparation à la guerre. C'est le mot peut-être de la semaine. La radicalité du carême, à quoi cela correspond-il? Et puis la diplomatie vaticane, quelque peu mise à mal. La diplomatie, la communication aussi. On a les bulletins tous les jours sur la santé du pape. Qu'est-ce à dire? Est-ce qu'on peut tenir longtemps sur ce rythme-là? Étienne Pépin donc et Constantin de Vergennes. Bonjour Étienne.
Bonjour Louis, bonjour à tous.
Journaliste et rédacteur en chef à RCF et puis bien sûr Constantin de Vergennes. Bonjour Constantin.
Bonjour Louis, bonjour à tous.
Journaliste à France Catholique. On va commencer donc par Emmanuel Macron et sa prestation hier à la télévision. On va d'ailleurs tout de suite en écouter un extrait.
Notre Europe possède la force économique, la puissance et les talents pour être à la hauteur de cette époque. Et que nous nous comparions aux États-Unis d'Amérique et a fortiori à la Russie, nous en avons les moyens. Nous devons donc agir en étant unis en Européens et déterminés à nous protéger. C'est pourquoi la patrie a besoin de vous, de votre engagement. Les décisions politiques, les équipements militaires, les budgets sont une chose, mais ils ne remplaceront jamais la force d'âme d'une nation. Notre génération ne touchera plus les dividendes de la paix. Il ne tient qu'à nous que nos enfants récoltent demain les dividendes de nos engagements. Alors nous ferons face, ensemble. Vive la République, vive la France.
Et voilà donc l'extrait de l'allocution d'Emmanuel Macron. 13 minutes hier avec des mots quand même qui résonnent. Hein, force d'âme, dividendes de la paix qui ne seront plus donc perçus par les générations qui viennent. Et puis la patrie a besoin de vous, Étienne Pépin.
Moi, j'ai été très marqué par ce discours, parce qu'il résonne avec un discours prononcé par Emmanuel Macron il y a tout juste 5 ans, qui disait ces mots « Nous sommes en guerre ». C'était au moment du Covid-19, au moment des premiers confinements. On avait eu déjà ce discours martial à cette époque. Et voilà, 5 ans après, revient ce discours qui prononce ces mots « paix, guerre ». Vraiment, j'ai senti un Emmanuel Macron dans une démarche presque d'avertissement martial, quoi. Vraiment, on est dans une époque qui bascule et véritablement, d'ailleurs, il l'a dit, voilà, la paix gagnée après les années 90, après la chute du mur de Berlin. Il a évoqué cet épisode, cette grande phase de paix qu'on a connue ces 30 dernières années. Mais voilà, on arrive au terme de cette période un peu sacrée, un peu dorée, un peu belle époque, peut-être qui nous faisait rêver une paix durable. Et au fond, ça y est, on passe à
autre chose. Il nous dit que c'est fini, en fait.
Oui, c'est terminé.
C'est dur à avaler. Non, Constantin de Vergennes.
Alors, effectivement, la tonalité est totalement inédite. Ça fait... pas souvenir d'avoir entendu un président de la République tenir un discours pareil. Ce qui interroge peut-être, c'est cet aspect, cette sensation que l'on découvre que le monde se brutalise, pour reprendre le terme usuel. Je me souviens, en 2008, était paru ce qu'on a appelé le livre blanc de la défense, qui est un livre blanc qui était un peu une synthèse pour donner les grandes orientations de l'armée, en l'occurrence de la défense dans les années à venir. Et à l'époque, la grande idée, c'était qu'il fallait nécessairement réduire les dépenses, qu'on ne pouvait plus tenir, et que, de toute façon, la réduction des dépenses en défense allait s'accompagner de façon d'une baisse des risques. Et déjà à l'époque, il y avait eu une tribune d'officiers, je ne sais plus si c'était Le Figaro ou un autre journal, qui, de toute façon, une tribune d'officier qui faisait écho à l'opinion qui était partagée à l'époque dans l'armée, qui était que c'était une folie, déjà à l'époque, de baisser le budget de la défense.
Et ce que Nicolas Sarkozy avait déjà pas mal entamé. Hein,
exactement. Donc je pense qu'on se réveille, alors c'est toujours bien de se réveiller même quand on se réveille tard, mais néanmoins ça vient un peu tard, et surtout s'il s'agit de rattraper 15 ans de dépenses non effectuées, ça risque de piquer un petit peu. Alors il faut bien noter effectivement que le président de la République a dit qu'il n'y aurait pas de hausse d'impôts, sauf que s'il n'y a pas d'hausse d'impôts, ça veut dire qu'il va y avoir des baisses de dépenses, donc dépenses où, et le fait qu'il n'y ait pas de hausse d'impôts ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de hausse de taxes. Voilà, il a juste parlé des impôts, oui. Donc voilà, peut-être que sur la fiche de sur la déclaration de revenus, effectivement, ça ne va pas augmenter, mais à voir pour le reste.
Constantin, quand il emploie des termes comme force d'âme, patrie, tout ça, ça convient bien à la rhétorique un peu France catholique, non ? Est-ce qu'il n'exhume pas un certain vocabulaire ?
Au-delà du vocabulaire, la question c'est qu'est-ce qu'on met derrière ? Appeler les Français, ce qui est intéressant, c'est appeler les Français à se mobiliser, appeler les Français à être prêts à défendre leur pays. C'est la question aussi qu'il y a derrière, c'est défendre quoi ? Défendre quel modèle ? Défendre quelle valeur ? Est-ce qu'il s'agit de défendre un territoire ? Est-ce qu'il s'agit de défendre un état d'esprit ? Alors pour l'instant, voilà, c'est une incantation. Voilà, je dis ça sans jugement de valeur. Hein, je veux dire, c'est un premier discours. Donc ce qui va être intéressant de voir, c'est qu'est-ce qui se cache derrière cette force d'âme à laquelle les Français sont appelés.
Étienne Pépin.
La force d'âme, parler de force d'âme le jour du mercredi des cendres, ça m'a frappé. Hein, la force est une des vertus. Voilà, évidemment. Donc ça m'a frappé ce jour-là, peut-être comme un clin d'œil.
C'était calculé, selon vous, Étienne ?
Non, c'était pas calculé. Et je pense qu'au fond, il vient parler là au cœur des Français. Moi, je suis sorti de ce discours plutôt avec des questions. Qu'est-ce que ça veut dire, quoi, l'engagement des Français ? À quoi est-ce qu'on doit s'attendre ? Est-ce que la jeune génération doit se préparer, par exemple, à reprendre le service militaire ? Est-ce qu'on doit préparer la jeune génération à faire ? C'était complètement sorti de nos esprits. On était justement passé dans une économie, en tout cas au sens militaire du terme, extrêmement limitée, pas du tout adaptée à la possibilité d'engager une guerre sur le terrain. Est-ce qu'on se prépare à cela ? On ne peut pas du tout s'y préparer seul. Certes, la France existe en elle, mais rien sans l'Europe, rien sans l'OTAN. Et l'OTAN... Il y a un acteur majeur dans l'OTAN, c'est les États-Unis quand même. On peut pas envisager un conflit sans l'OTAN, sans les États-Unis, sans l'Europe. Au fond, ils nous préparent, nous, Français, mais pas sans nos voisins, c'est sûr.
Les contours de l'engagement, comme dit Étienne, sont quand même extrêmement flous, hein ?
Oui,
Constantin.
extrêmement.
C'est un peu anxiogène peut-être pour l'opinion de savoir, mais comment va-t-on être engagé ? On ne le sait pas. Alors il y a une réunion quand même aujourd'hui, on peut le préciser. Mmh. Hein, les 27 pays de l'UE et Volodymyr Zelensky se retrouvent pour un sommet extraordinaire sur l'Ukraine. Peut-être qu'on en saura davantage. Mais...
Oui, et puis même
à Bruxelles.
Globalement, c'est aussi une ambiance presque d'injonction contradictoire, parce que d'un côté, effectivement, il faut se préparer à la guerre, et en même temps, on prépare les esprits aussi à, si ce n'est une paix en Ukraine, en tout cas peut-être un cessez-le-feu. Donc il y a un peu un double mouvement de guerre à écouter Emmanuel, un double mouvement de guerre qui se rapproche, et en même temps de paix qui va s'installer en Ukraine. Donc effectivement, quand on est pris entre les deux, c'est peut-être un peu complexe d'y voir clair.
Je pense qu'il nous prépare à un rapport de force avec la Russie, sans forcément qu'il y ait une guerre de terrain, une guerre véritablement avec un front comme on a pu le connaître au XXe siècle. Je crois qu'on se prépare là un rapport de force avec la Russie. On se pose aussi la question de savoir qui seront nos alliés et quels seront les pays médiateurs dans cette guerre qui peut prendre une autre forme. Hein, si c'est un rapport de force, ce sera un rapport de confrontation peut-être morale, hein, tout simplement, entre l'Europe et la Russie. Quid des États-Unis qui vont pas forcément voler au secours de l'Europe, hein, dans les prochaines années. Moi, je m'interroge aussi sur la place des pays, entre guillemets, médiateurs. Hein. On parle d'une diplomatie hôtelière au sujet de la Turquie et de l'Arabie Saoudite, qui sont des pays où aujourd'hui ont lieu des réunions pour envisager des sommets bilatéraux entre tel ou tel pays. Voilà, comment va s'organiser finalement le monde de demain? Est-ce que les grands blocs qu'on connaissait jusqu'à aujourd'hui vont être déstabilisés? En fait, voilà, je redis ça, mais je pense qu'on est devant beaucoup, beaucoup, beaucoup de questions, bien plus que des réponses. Moi, je pense qu'il nous prépare à nous engager moralement, en fait. Il va falloir qu'on soit solide sur le plan moral, qu'on tienne le coup dans notre économie aussi, qu'on continue à prendre des initiatives pour faire vivre notre pays avec l'industrie, avec l'économie, les projets voilà, de terrain. Je pense qu'il y a ça aussi derrière, pas seulement un projet belliciste ou un projet martial. J'imagine pas qu'on envoie là nos jeunes faire la guerre demain.
Mais certains ont peur de l'escalade, hein, l'escalade nucléaire aussi. Est-ce qu'il y a une rhétorique guerrière un peu présidentielle, martiale, comme vous disiez tout à l'heure, Étienne Pépin, qui peut aboutir à une situation quand même dangereuse et inquiétante,
sans doute pas.
Ce sont des accents quand même un peu forts.
Sans doute pas, parce que je pense que les États-Unis là-dedans jouent un rôle majeur. Ils veulent, les États-Unis, éviter la guerre à tout prix, parce que l'enjeu pour les États-Unis, c'est un enjeu vraiment principalement économique. Il s'agit justement de limiter les défenses, limiter les dépenses, et au fond, une guerre entraînerait vraiment le monde dans une folie économique. Voilà, faire la guerre, ça coûte beaucoup, beaucoup d'argent. Certes, il faut se préparer économiquement, il faut se préparer sur le plan militaire, et aujourd'hui on n'est pas du tout prêt, hein. On a de quoi tenir 3 jours, c'est ce qu'on dit à longueur des missions, donc c'est pas le sujet à mon avis de faire la guerre pour faire la guerre, mais l'éviter parce que ça coûterait trop cher et ça mettrait à mal nos économies.
Oui, Constantin Mergen.
En politique et en diplomatie, c'est toujours les paroles et les actes. Et rarement, les paroles sont performatives. C'est-à-dire que le fait de dire que nous sommes en guerre ou la guerre arrive, ça ne veut pas dire que nous sommes en guerre, je veux dire matériellement, et que la guerre va arriver. Ce que je trouve intéressant, cette prise de parole, c'est que c'est un symptôme, peut-être une manifestation, un symptôme français, et dans chaque pays, on pourrait un peu décliner ça, de finalement ce grand mouvement d'accélération, on pourrait dire, de l'histoire, et peut-être de, alors c'est l'histoire là aussi qui le dira, mais de clou dans le cercueil de la théorie de la fin de l'histoire qui avait été élaborée par un politologue américain qui s'appelle Francis Fukuyama, une théorie qui était très très en vogue
dans les années 90,
qui voulait que en fait la démocratie libérale était le modèle ultime qui allait se répandre partout, notamment en Occident, et qui allait amener la paix. Effectivement, dans ces années-là, la démocratie libérale s'est répandue. Mais je pense qu'on a été tellement, on s'est tellement emmené dans cette, fourvoyé dans cette idée, presque cette paire de lunettes roses, qu'on n'a pas vu le réveil, ce qu'on appelle les grands empires. Il y a la Chine, la Russie, même la Turquie. Maintenant, les États-Unis reviennent eux aussi à une politique où ils pensent d'abord à eux avant de penser aux autres, même si bon, l'Amérique a toujours pensé à elle. Donc voilà, c'est au tour de la France, là encore, de se réveiller. Le réveil fait un peu mal. On redécouvre qu'il faut penser à ses intérêts et qu'il n'y a pas que des relations d'amitié entre les pays, que c'est surtout des relations d'intérêts et que souvent les intérêts viennent s'entrechoquer les uns les autres et parfois ça s'entrechoque au point de faire des étincelles et de provoquer des affrontements.
Francis Fukuyama avait servi d'un peu d'alibi à la pensée néoconservatrice dans les années 90, après l'effondrement de la Russie. Il y avait une expansion naturelle, du moins le pensait-il, de ce modèle américain qui se ferait aussi par la force. Ça a débouché sur la guerre en Irak, ça a débouché sur beaucoup de choses. C'est vrai qu'on a essayé de revenir aussi de cette période-là, qui n'était pas forcément, une période où l'Amérique a pu servir d'exemple, hein, dans les conséquences de ses actes. Étienne Pépin.
Je pense aussi, quand on évoque justement ce mot de guerre, je pense qu'il y a une guerre économique, hein, j'y reviens, mais c'est vrai qu'avec l'agressivité américaine actuellement sur la question des droits de douane, en particulier avec le Canada, ça fait naître un patriotisme, j'en reviens à ce mot-là, par exemple du côté canadien, on s'y attendait pas, mais on a à la frontière américaine véritablement un sursaut un petit peu patriotique, peut-être pas tout à fait naturel pour les Canadiens, mais voilà, l'agressivité elle est là aussi, ça va jouer sur qui va gagner des parts de marché, qui va pouvoir tirer son épingle du jeu, et ça vaut pour le Canada, ça vaut pour la Chine, ça vaut pour l'Europe, et l'Europe voilà, au sens large, hein. Quand je pense à l'Europe, je pense pas seulement à l'Union Européenne, je pense à l'Europe au sens large, aussi le Royaume-Uni, on l'a vu ces derniers jours, qui joue un jeu majeur dans ce qui se passe actuellement. C'est un interlocuteur auquel on ne peut pas on ne peut pas échapper, et c'est, ça me semble très important de reconsidérer l'Europe, non pas en termes d'institution d'Union européenne telle qu'elle existe aujourd'hui, mais au sens large de l'Europe qui va devoir se souder différemment. Rejaillit aussi la question de la, d'une vision fédérale de l'Europe, parce qu'en fait un pays comme la France ou seul comme l'Allemagne seul ne fait pas du tout le poids. En fait, on ne fait pas le poids face à la Russie, face à la Chine, face aux États-Unis. Donc en fait, ça doit nous re-questionner, je crois profondément, sur ce que fait l'Europe, qui en fait agit actuellement à coup de milliards pour soutenir l'Ukraine, et c'est louable.
Il en faut 800 milliards pour créer une armée, hein, c'est ce que nous dit l'Union européenne, enfin du côté de l'Union européenne. Sachant qu'Emmanuel Macron semble se positionner comme président de l'Europe, hein, il parle un petit peu comme ça.
Parce que c'est une voix qui compte, la France avec l'Allemagne, c'est le pays locomotive de l'Europe. Donc forcément, Emmanuel Macron, c'est l'interlocuteur tout trouvé pour Donald Trump, évidemment.
Il y a aussi un point, alors c'est souligné par certains messages, hein, j'en fais la synthèse, mais Emmanuel Macron se couche devant l'Algérie car il a peur de la diaspora en France. Est-ce que donc ces redemontades contre la Russie, si ce sont des redemontades, ont une quelconque valeur dans la mesure où c'est facile de s'opposer à la Russie parce que finalement ça n'engage à peu de choses sur le territoire national, il n'y a pas beaucoup de conséquences sur le territoire national. En revanche, dans le bras de fer avec l'Algérie, c'est plus difficile.
Je rajouterais que non seulement effectivement ça n'a pas beaucoup de conséquences sur le territoire national, et puis surtout la discussion qui a lieu en ce moment est essentiellement entre les États-Unis et la Russie, éventuellement l'Ukraine. On voit même que ce n'est pas que le président de la République française, mais les dirigeants européens essayent de s'inviter à la table des négociations entre les États-Unis et la Russie, mais on ne voit pas très bien quel levier ils peuvent actionner. Donald Trump a bien rappelé, en tout cas il a montré que désormais la diplomatie, ça se faisait à grands coups de menaces. On a beaucoup glosé, notamment sur le plan qu'il avait proposé pour Gaza, en disant qu'il voulait déporter les Palestiniens pour faire une Côte d'Azur à Gaza. Il a même posté sur son compte Twitter, enfin sur son réseau social privé, une vidéo générée par l'intelligence artificielle où on voit à quoi ressemble la Côte d'Azur
à Gaza.
Une vidéo assez délirante. Alors on s'est beaucoup moqué de cette vidéo. En fait, je pense que ça fait partie d'un schéma diplomatique qui est un schéma extrêmement offensif, qui consiste à dire voilà le plan que je propose, il est peut-être irréaliste pour vous, très bien, j'accepte cette critique, mais à ce moment-là, à vous de proposer autre chose. On a bien vu pour l'Ukraine, c'est-à-dire que dès qu'il y a eu l'altercation entre Zelensky et Donald Trump et Jane Evans au bureau Oval, dans la foulée, les États-Unis annoncent le gel de l'aide militaire à l'Ukraine, et il faut vérifier, c'est 24 heures ou 48 heures après, Volodymyr Zelensky, président ukrainien, dit « Ok, je reviens à table des négociations. » Et il se soumet. Donc c'est comme ça que ça fonctionne. Donc la question... C'est une petite brutale. C'est un état de fait. Il faut composer avec ça. Donc la question, c'est qu'est-ce que l'Europe peut, en termes de brutalité, qu'est-ce que l'Europe peut proposer? Je ne vois pas très bien ce qu'elle peut proposer.
Mais l'Europe ne peut pas proposer quoi que ce soit en termes de brutalité. L'Europe a été créée pour la paix. Donc nécessairement, quand on a décidé de fonder l'Union européenne, on a décidé de réduire les dépenses, comme vous le disiez, selon cette théorie dont vous parliez justement, d'un monde sans guerre. L'Europe était faite pour la paix. Donc de fait, on a réduit nos dépenses militaires en disant, en réduisant nos dépenses militaires, on va créer justement un univers de paix. C'est complètement illusoire.
Étienne Pépin, Constantin de Vergennes, merci pour ces réflexions. On va les laisser reposer un instant, le temps de l'actualité, si c'est possible, bien sûr. Et on se retrouve juste après avec un autre sujet dans ce débat auquel vous pouvez réagir, bien sûr.